Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Lorsque j'ai enregistré la troisième oreille sur le sexe féminin, j'étais partie pour vous proposer de ne plus faire l'amour et de ne jamais faire du sexe. Mais je me suis dit que si je ne mettais pas d'abord en évidence combien bien nommer le sexe permet de modifier le rapport sexuel, vous alliez me prendre pour Ovidie. Or, je lui préfère Ovide et ses métamorphoses foisonnantes. Mais il est des préjugés et des représentations tellement intégrées qu'il est presque impossible de les faire bouger même d'un poil, ou de faire entendre des choses différentes, presque impossible d'en détricoter les évidences. Je dis détricoter pour rappeler la proximité du texte et du tissu. Ce n'est pas sans raison que Pénélope tisse et détisse. Pénélope est un poète, son texte est l'absence d'Ulysse. Ulysse et Pénélope, c'est chacun de nous, l'inséparable pour un être humain, de la présence et de l'absence. Bref, le langage. Le langage est le tissu dont nous sommes faits. Il n'est pas un après, il n'est pas un en plus. Pour les humains, et c'est ce qui les caractérise, il n'y a pas une biologie, puis comme par-dessus, le langage. Le chien, la poule peuvent survivre sans langage, pas l'humain. Vers l'an 1500, le roi d'Écosse mit au point une expérience qui, selon lui, devait permettre de connaître le langage originel des hommes. Il isola deux nouveau-nés, les filles élevées par une femme sourde et muette sur une île déserte. Résultat, les enfants moururent sans jamais avoir prononcé le moindre mot. Toutes les expériences ont eu le même résultat. Le langage n'est pas en option pour les humains. Le langage est notre chair. Aussi, est-il tout sauf indifférent d'employer une expression plutôt qu'une autre, ou encore de censurer le langage pour ne pas avoir à se censurer soi-même. Cette censure, souvent latente puis de plus en plus évidente dans les totalitarismes, ne manifeste pas seulement un manque de culture, mais aussi, et surtout, une perte d'humanité, puisqu'on ne s'humanise que par le langage et que nous sommes le langage que nous mangeons. Je dis détricoter et non pas déconstruire, qui me semble à la fois juste et problématique. Oui, il y a des évidences qui n'en sont pas, des préjugés construits par tel ou tel choix culturel, social, des préjugés à dénoncer, des analyses à mener, des constructions mal bâties sur lesquelles on ne peut rien bâtir d'autre que des bâtiments de travers qu'on doit toujours rafistoler pour qu'ils tiennent. Or, le rafistolage, c'est toujours les mêmes qui le font. Pourtant, les êtres humains auraient tout à gagner à construire ensemble un monde plus égalitaire à partir de leur altérité, et non un monde qui confond altérité avec inégalité, parce qu'il ne sait pas penser la différence autrement que comme une complémentarité. Et c'est parce qu'il y a à construire ensemble que les expressions « sexualité déconstruite » ou « homme déconstruit » me posent problème. De surcroît, chacune sait que, face à un homme déconstruit, elle va bientôt avoir à mettre les mains dans le cambouis de ses angoisses et sera bientôt chargée de le reconstruire ou de l'aider à se construire au lieu de se concentrer sur ce qu'elle a à accomplir pour elle-même. Le féminin en chacun de nous doit tisser et détisser chaque jour et chaque nuit ce que le masculin en nous expérimente chaque jour et chaque nuit. Comme l'écrit le moraliste colombien Nicolas Gomez d'Avila, l'absence de la vie contemplative fait de la vie active d'une société un grouillement de rats pestilentiels. Méfions-nous, ça approche. Il est plus que jamais urgent que danse le langage, plus que jamais nécessaire qu'il ne marche pas au bruit des bottes. Faire l'amour, expression qui apparaît au XVIe siècle, est plutôt une jolie expression si on la prend au pied de la lettre. Et ma foi, pourquoi ne pas le prendre son pied ? Faire l'amour, le fabriquer, le façonner de caresses en étreintes, de sauvages désirs en ardente tendresse, jour après nuit, entre mots et silence. Quelle belle aventure ! Quelle belle aventure si on s'attarde sur l'expression « faire et défaire l'amour ». Et quel programme tuant s'il ne s'agit que de faire l'amour comme on fait une mayonnaise, en espérant que ça prenne et que surtout ça ne retombe pas, faute qui en incomberait bien sûr aux femmes, dont chacun sait que lorsqu'elles ont leurs règles, elles font rater les mayonnaises. Mais faire l'amour n'est pas une expression anodine. Elle implique une vision non seulement masculine, mais encore capitaliste de la sexualité et de l'acte sexuel. Et ce n'est évidemment pas un hasard si elle apparaît au siècle où le pouvoir commence à se centraliser. Faire l'amour valorise l'idée d'action et de maîtrise. Et la très vilaine expression « faire du sexe » qui tend à remplacer celle de faire l'amour renforce encore ce pragmatisme. Se crée donc et s'accentue un déséquilibre vers le pragmatique si cher au capitalisme, car dans les sociétés occidentales, où il faut être efficace et rentable, où la paresse est mère de tous les vices, peut-être parce qu'il s'agit de cacher la paresse intellectuelle derrière l'agitation, il ne faut pas chômer, et même l'amour doit être fait, consciencieusement, pour atteindre évidemment son objectif. Bref, on fait beaucoup, on fait même tellement qu'on n'a plus le temps de se laisser transformer par ce qu'on fait. Or, non seulement l'amour se défait autant qu'il se fait, et c'est à cette condition seulement qu'il peut rester inventif et échapper à l'ennui de la répétition conservatrice, mais surtout, l'amour se fait et nous fait d'étreintes en étreintes. Or, dans nos sociétés trop masculines, et la mondialisation régie par le profit accentue dangereusement ce déséquilibre entre féminin et masculin, faire l'amour, et pire, faire du sexe, c'est avant tout faire. Plutôt que de vouloir faire l'amour, quoi qu'il en coûte, ne pourrions-nous pas laisser l'amour se faire, ou nous faire, au fil des jours et des caresses? Ne pourrions-nous pas ouvrir un espace où l'amour pourrait se faire et nous faire, plutôt que de revendiquer notre droit à le faire ou ne pas le faire? Il y a des choses qui ne se décident pas, et l'amour est de celles-là. Alors pourquoi s'en penser le maître et vouloir tant le faire? Ne pourrions-nous pas lâcher cette peur qui nous fait vouloir avoir contrôle sur tout pour laisser place à ce qui advient, à ce qu'un amour, par exemple, recèle de surprise, tout comme, pour reprendre les mots si justes et si puissants de Wajdi Mouawad dans sa leçon inaugurale au Collège de France, le poète, pour écrire, doit laisser écrire l'ombre en soi. Ne pourrions-nous pas cesser de saturer l'espace où l'érotisme étouffe de devoir atteindre un objectif? Cessons donc de faire l'amour. Cessons donc de faire l'amour seulement à la masculine, seulement avec un seul pan de notre humanité. Et comme le poète, laissons l'amour, le désir et le plaisir monter en nous par les chemins que nous ouvrons en nous et entre nous. Laissons l'amour se faire et se défaire, nous faire et nous défaire, à partir de l'ombre en chacun de nous, à partir de l'ombre entre nous, à partir du trouble que l'intime éveille dans nos corps comme dans nos certitudes, dans nos mots comme à la fleur de nos peaux. L'érotique alors redeviendra une création, une aventure sans fin, une exploration à deux de ce qui ne jamais ne se maîtrise. La rencontre, rencontre en soi-même de l'altérité, rencontre en l'autre de notre singulière, mouvante et émouvante intimité. Rencontre jamais achevée et jamais achevable, car c'est là la caractéristique de toute rencontre, de ne jamais avoir de fin et de n'exister que dans un tissage et détissage de chaque jour et chaque nuit, dans un tissage et détissage chaque jour et chaque nuit, de l'altérité en nous et entre nous. I've got people.